La journée finit bien sur Radio Lac.
Avec Benjamin Smadja.
Avec Benjamin Smadja.
Le programme du Montreux Jazz Festival est sorti. Vous le retrouvez évidemment sur radiolac.ch. Pour en parler, son taulier Mathieu Jaton, bonjour.
Salut.
Mais merci beaucoup, je suis très content de vous avoir sur Radio Lac pour parler de cette nouvelle édition. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par quelque chose bien de triste. On a perdu Quincy Jones en fin d'année dernière, qui était plus qu'un ami pour le Montreux Jazz Festival.
Ouais, c'était plus qu'un ami. Ils étaient le coproducteur du festival 91-92-93 et ensuite le meilleur ambassadeur qu'un festival puisse jamais rêver. Donc c'est exceptionnel.
Et la magie quand même de Montreux, c'est d'arriver à faire quelque chose de positif avec du négatif. On commence avec Chaka Khan. Déjà, c'est une artiste de légende. 50 ans de carrière et 2 concerts différents le même soir.
Ouais, c'était vraiment son souhait, faire son concert normal, d'ailleurs, qu'elle va faire à quelques endroits en Europe, donc ses 50 ans de carrière. Et après, sur sa demande, elle a voulu faire un deuxième concert en hommage à Quincy Jones, dans la bonne tradition de Quincy, c'est-à-dire qu'il y aura plein de monde sur scène, plein de musiciens, plein de chanteurs qui viendront de partout pour rendre hommage à ce grand monsieur. Et c'est ce qu'on aime le plus à Montreux, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour nous faire l'hommage, si ce n'est qu'on le porte de notre cœur, mais c'est toujours mieux quand c'est les artistes qui font l'hommage et qui le proposent eux-mêmes. Et là, en plus, cerise sur le gâteau, on sait qu'on a les grands amis de Quincy qui sont dans la maison. Lionel Richie va venir quelques jours plus tard, Diana Ross sera là. Donc j'imagine qu'à un moment, il y aura un clin d'œil, il y aura quelque chose de particulier par rapport à Quincy.
Et c'est quand même, parce qu'on dit chaque année, mais vraiment, je pense que c'est important, cette magie. Moi, j'ai eu la chance de voir Diana Ross il y a quelques années à Montreux. Mmh. Et déjà, le concert est extraordinaire. Dire c'est un jukebox vivant, hein, Diana Ross, on le sait.
Ça, c'est sûr, ouais.
Mais en plus, arrive sur scène les enfants, les petits-enfants qui dansent avec, et ça crée quelque chose, mais qu'on ne voit jamais.
Oui, et puis ça, c'était de nouveau, ça demande la dernière fois. Je crois que quand on nous a annoncé la guest list de la famille, c'était 50 personnes. et puis, donc, à un moment, elle a voulu amener tout le monde sur scène. Et puis, je trouvais que ça a donné quelque chose de tellement humain, qui fait tellement du bien aujourd'hui dans un monde où on est un peu dans le gigantisme, où tout est formaté, tout est calculé, les concerts, machin, clac, clac, clac. Et puis là, d'avoir ces moments presque de fragilité, en fait. Hein. C'est moi, ce que j'aime le plus sur scène, c'est quand les artistes montrent aussi leur fragilité ou partent dans des improvisations et puis qu'ils se mettent à nu, ils prennent des risques. C'est pour moi ça, la live music.
Avec cette volonté d'en parler avec les programmateurs un peu plus tôt, de ne pas remplir des cases, mais vraiment de créer des moments. Par exemple, d'avoir du R&B dans une salle de 1300 places.
Ouais, alors ça, c'est... Je pense que tu fais référence à George Smith.
Par exemple.
Et Leon Bridges, qui nous font le cadeau, en fait, de venir dans une salle comme celle du Casino, 1300 places. On se rappelle de Georgia, quand elle est venue la dernière fois au Lab, où elle avait fait un carton. Et là, on était quand même à 2300 places, hein, au Lab. Et puis après, elle avait fait un hommage à Quincy Jones, justement, pour son anniversaire. Je pense que ça a aussi joué un rôle, le casino, la salle, l'histoire du casino, l'année où Quincy est parti, qu'une artiste comme Georgia Smith accepte de venir sur cette scène-là. Et c'est magique, et pour moi, c'est un peu cet ADN de Montreux qu'on recherche à chaque fois.
Pendant la présentation à la presse, on est passé donc par la musique urbaine, du jazz, de la pop, et vous avez dit, vous savez à quel point les musiques latines font partie de l'ADN du Montreux Jazz Festival. Rappelons la base, c'est quoi alors l'ADN?
Bah, à la base, c'est 1970, quand Claude Knobs, donc 3 ans après la création du festival, je rappelle, qui était quand même très, très jazz au début, enfin pur jazz, et Claude Knobs amène Carlos Santana, et à ce moment-là, il se fait un peu laminer par les médias et par tout le monde, disant, c'est plus du jazz, etc.
Ça ne marchera jamais,
et Claude a toujours gardé cette ligne, qu'il avait d'ailleurs en commun avec Quincy, de dire, en fait, pour lui, le jazz, c'est d'abord cet ancrage afro-américain de la musique soul, et ensuite, c'est toutes les musiques qui sont dérivés de ça, et c'est pas, on va pas mettre un style dans une case. C'est le jazz, c'est aussi ce monde de la liberté, ce monde de l'improvisation. C'est un état d'esprit, en fait, plus qu'autre chose. En Europe, on a beaucoup classifié le jazz dans le free jazz et des choses comme ça, et Montreux a toujours été très ouvert, ce qui nous a amené pas mal de critiques, ce qui nous amène chaque fois la réflexion, pourquoi vous appelez toujours Montreux Jazz Festival. Et je crois que la partition de cette année, elle est la parfaite expression de tout ça. On parle d'une Georgia, mais une Georgia, elle était inspirée par Nina Simone, par Aretha Franklin. On parle des gens du hip-hop qui aussi ont été inspirés par cette... et vous avez entendu dans la présentation, le doyen de ce festival, c'est Bobby Rush, un bluesman
91 ans, c'est
91
ça?
ans, qui dit de manière très jolie, If you don't like the blues, you probably don't like your mama. Si tu n'aimes pas le blues, c'est que potentiellement tu n'aimes pas ta mère, parce qu'il estime que le blues est la mère de toutes les musiques. Je trouvais ça tellement joli qu'on vous l'a présenté tout à l'heure.
Moi, je ne m'attendais pas du tout à voir un artiste qui fait de la J-pop, cette pop japonaise, hein, qui sera présent sur les rives de Montreux cet été.
Oui, ça c'est dingue. Fujikaze, qui est l'ambassadeur de la J-pop aujourd'hui, donc la K-pop, on la connaît bien, elle est un peu, pas complètement, mais un peu en perte de vitesse quand même ces dernières années, puis elle est en train d'être reprise par la J-pop, et c'est son ambassadeur, c'est au Japon, si on parle de Fujikaze, ils deviennent fous. Et là, il va jouer devant la salle de 1300 places, donc c'est dingue. Et en plus, il joue en ouverture de Phineas, donc ça, c'est des plateaux, nous, on adore ça, on adore ces grands écarts aussi artistiques, mais avec une cohérence dans la programmation.
Je reste sur ces artistes qui ne sont pas estampillés jazz, et c'est tant mieux. J Balvin, par exemple.
J Balvin, on l'appelle le prince de la reggaeton, et pour moi, c'est l'héritage de cette musique latino. D'ailleurs, je voulais passer juste après Santana. C'est pas pour rien, parce que ces jeunes artistes, hein, que ce soit Maluma il y a quelques années, J Balvin maintenant, c'est l'héritage de cette musique latino qui est vraiment la reggaeton. Il est surnommé le prince de la reggaeton, il a collaboré à tout le monde, Beyoncé, Dua Lipa, Bad Bunny, etc. Et de l'avoir à Montreux, là, sur la scène du lac, ça va être un moment de dingue.
Et oui, parce que vous venez de parler de Santana, il y a 50 ans ou peu ou prou, Santana était là et de retour cette année, quoi. La boucle se boucle à nouveau.
Ouais, vraiment. Et ça, c'est un cadeau parce que tout le monde s'est posé la question, est-ce que Santana va retourner? On sait tous qu'il a eu un petit passage à vide, aussi un passage de santé, et puis on se demandait s'il allait retourner. Et c'est chose faite. Et puis quand on a appris qu'il retournait, on s'est dit, mais mon Dieu, on espère qu'il ne sera pas Montreux et il est là. Donc c'est super, c'est juste super.
Vous êtes toujours surpris de voir ce qu'on peut faire avec cette note de musique sur un piano, 6 cordes de guitare.
Toujours, ça me fascine.
C'est fascinant, ouais.
J'étais aussi moi-même musicien totalement amateur, et puis on voit des fois quand on est amateur, comment on peut tourner en rond sur les mêmes accords, sur les mêmes choses, et quand on voit comment la musique elle se régénère en permanence, qu'elle se réinvente en permanence, ça veut pas dire qu'on sait qu'il y a une immense créativité qui a été faite entre 1965 et 1975, puis qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont réinventées, mais c'est fascinant. Je trouve une artiste comme FKA Twigs. Je trouve que c'est super intéressant. Et chaque fois, chaque année, quand on présente le programme, il y a des nouveaux artistes qui ont sorti un nouveau hit, un nouveau truc. Là, on parle de Benson Boone, quand même, je veux dire, le titre le plus écouté en 2024. C'est encore possible aujourd'hui. Enfin, c'est dingue. Moi, ça me fascine toujours.
Benson Boone, voilà un artiste un petit peu plus contemporain sur des basses solides comme Shabuzi, comme James Blake, qui va faire un projet très particulier.
Ouais, James Blake, piano solo. C'était joli, ça, parce qu'il fait tourner avec son piano solo. Il y a 10 ans, il donne une interview en disant qu'il rêverait de faire de l'improvisation au piano et puis que le lieu rêvé pour lui, ce serait le Montreux Jazz. Donc c'est des jolies histoires et ça se concrétise, et puis voilà, donc
et alors très concrètement, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a 10 ans vous voyez passer ça, vous dites un jour ce serait sympa qu'ils viennent, ou est-ce que vous avez retrouvé ça, c'est une jolie histoire à raconter?
On garde toujours en tête ces trucs. Il y a eu pas mal de révélations qui sont faites des artistes dans les médias, donc ils disent un truc puis des fois on rebondit dessus. Je vous citerai pas ceux que j'ai en tête pour le futur parce que je voudrais pas donner de faux espoirs. non mais c'est des petites phrases qu'on entend, et puis celle-là elle en fait partie évidemment.
Je cite Mathieu Jatton, le 8 juillet, ne m'emmerdez pas, je regarde Landon Grammar et Rufus du Sol.
Bah oui,
fin de citation.
J'assume complètement. Bah oui, c'est un plateau que j'adore. Rufus, on les avait vus il y a quelques années au Lab, c'était déjà incroyable. Et moi, je trouve que c'est un groupe qui me fascine. Et London, le grand retour de London Grammar, cette voix toujours qui est magnifique. Donc là, les avoir en plus ensemble, sur le même plateau, la même soirée, c'est clair que ne m'emmerdez pas.
Pareil dans les groupes de légende, Pulp, les Black Keys. Et pourquoi est-ce qu'il y aura les Black Keys?
Ah, on aime cette histoire.
Hein. Mais oui, mais parce qu'elle est belle, elle se raconte.
Elle est super, mais parce qu'en fait, on avait envie de faire revenir sur la scène du lac nos super amis qui sont les Hermano Gutiérrez, d'origine suisse et équatorienne. Et les deux derniers albums, parce qu'ils ont fait un sacré chemin, les deux derniers albums sont produits par Dan Auerbach, donc le leader des Black Keys. Et quand on voit ça, on se dit, tiens, ce serait tellement incroyable de les mettre ensemble, et surtout que les Black Keys ne sont jamais venus à Montreux. Et on tente notre chance sur une date, et ça marche, ils sont là ensemble, Hermano Gutiérrez et Black Keys.
Et quand on fait traditionnellement gérer un festival, il y a des artistes qui sont à disposition, ils tournent, on regarde si on peut les avoir, on fait une offre, ça marche comme ça. Quand il y a des groupes comme Pulp ou des créations, je pense à ce que va proposer Wax par exemple, ça se passe comment dans ces moments-là? Comment on construit ça?
Alors, Pulp, c'est le bon exemple. C'est qu'à un moment, on se dit, moi, je les ai vus à Primavera l'été passé, où j'étais complètement scotché. Ce groupe, évidemment, mythique, qu'on n'a pratiquement jamais vu en Suisse. Vous imaginez, de toute leur carrière, ils n'ont joué que deux fois en Suisse, la dernière fois en 2001.
C'était le moment de repasser.
C'était le moment de repasser, mais il n'y a pas de tournée, en fait. Il n'y a pas. Donc là, à un moment, c'est vrai qu'on entend qu'il y a deux ou trois choses qui se font, mais il n'y a rien de très clair. On appelle l'agent, on dit est-ce que cette date, il serait dispo? L'agent dit ben oui, ils sont dispo. Mais comme il n'y a pas de tournée, on ne sait pas. Ça veut dire dispo, ça ne veut pas dire qu'ils
Ils sont
sont là, et
disponibles
puis
pour
qu'il n'y en a
venir.
pas un qui est en vacances, ou qui a l'anniversaire de sa grand-mère, ou voilà, on ne sait pas. Et donc, on fait une offre, et puis ça, c'est un petit peu aussi la magie de Montreux, c'est que la marque Montreux résonne dans la tête de certains artistes, et la confirmation arrive assez vite, et ça, c'est super. Le projet Wax, je trouve super intéressant, parce que c'est un artiste, c'est plutôt un YouTuber, musicien talentueux, qui invite des gens sur son plateau, qui filme, et on le voit très peu en festival, et là, ça fait partie de ces projets spéciaux Montreux au casino. Et je suis sûr qu'il y aura deux ou trois artistes avec lui, parfaitement intéressant.
Pour une deuxième et dernière édition Hors les murs, est-ce que c'est une parenthèse enchantée ou est-ce que bon, on se dit bah, tiens, pour l'année prochaine, on a quand même fait des petites choses bien, donc quand on va retourner dans le deuxième dossier, on peut peut-être garder deux, trois idées.
C'est un peu tout en même temps. Depuis le début, je vous avais dit 2024-2025, ça sera en fait une formidable contrainte transformée en opportunité, une opportunité aussi de réfléchir différemment quand on reviendra au centre des congrès. Alors je casse le rêve tout de suite, il n'y aura pas le Stravinsky plus la scène du lac en 2026, ça c'est sûr, parce que c'est juste pas possible pour moult raisons. Mais par contre, tout ce qu'on a appris en 2024 et 2025 va nous renforcer pour ce retour au centre des congrès. On retrouvera le Stravinsky, on retrouvera le Lab, mais on va certainement aussi retrouver des choses qu'on a vues en 2024 et 2026. Puis après, il faut jamais dire jamais. L'avenir, on ne sait pas ce qui sera. Je crois que finalement, avec toute l'équipe, on s'est définitivement dit qu'on est des bougeaillons, on n'aime pas le copy-paste. Ce qui fait aussi l'ADN de Montreux, c'est de se réinventer systématiquement, de voir les choses différemment, de s'adapter par rapport au monde de la musique. Bah, regardez, là, cette année, on fait la scène Spotlight,
Le loft.
Le Loft, qui sera un nouveau projet. Et puis, on aime bien. Alors, il y en a qui vont dire, ah, il n'y a plus le Listo, il n'y a plus la scène Ibis. Bah ouais, mais il y a un nouveau truc, c'est la scène Spotlight. Et puis, on aime bien que le public s'approprie ces nouvelles idées, et puis nous amène aussi vers de nouvelles idées. Là, la scène Nestlé, avec la musique suisse, jazz, etc. C'est aussi une demande du public qu'on a voulu satisfaire.
Et le Montreux Jazz Festival qui s'exporte aussi bien au-delà de Montreux, on peut parler par exemple de Miami qui fonctionne de manière extrêmement forte. Le but, c'est quoi? C'est y a un côté aujourd'hui Montreux, demain le monde?
Non, le but, alors c'est toujours dans l'ADN de Montreux, qui est quand même à la base un acteur touristique pour la destination, qui est une marque forte pour la destination. C'est pas nouveau qu'on s'exporte à l'international, mais on s'exporte de manière beaucoup plus systématique avec des lieux, je le dirais en anglais, ce qu'on dit unique experiences in iconic location. Donc on veut pas être des festivals comme Lollapalooza ou Bonnaroo qui se développent avec des giga open air, mais plutôt d'aller dans des lieux iconiques qui font sens pour l'histoire de la musique et pour nous. Donc, quand on est à Miami, on est à Coconut Grove, qui sont les racines même de la musique latine aux États-Unis. Donc, c'est super intéressant pour nous. Quand on va au Brésil, on est sur le pain de sucre. On va aller chercher des lieux assez intéressants, mais surtout qui répondent toujours à trois aspects. C'est un aspect culturel. Et quand on est aux États-Unis, regardez, voilà, c'est John Baptiste qui est l'ambassadeur de Miami. Fred Wesley, il habite à côté, il vient faire une jam. Gonzalo Rubalcaba, il est aussi à côté, il vient faire la jam. Will Smith, il passait dans le coin, il a dit, ah, tiens, je vais dire un bon petit bonjour à mon copain John Baptiste. Donc c'est une manière aussi pour nous de se rapprocher d'une scène américaine qui, justement, n'est peut-être pas en train de tourner et puis qui va dire, ah, oh, Montreux, trop bien, etc. Alors je vais faire un projet. Donc on aime ces moments-là et puis chaque destination, que ça soit la Chine, que ça soit le Japon, que ça soit le Brésil, a une raison d'être pour le développement de la marque Montreux Jazz à travers le monde.
Et Montreux Jazz qui reste bien entendu extrêmement ancré dans son écrin local, quoi, chez nous.
Plus
Hein.
que jamais, parce que même si on parle d'international, si vous regardez et que vous observez un tout petit peu, on voit que le Montreux Jazz devient vraiment le récipiendaire de toutes ces activités annuelles. Scène Spotlight, on a Spotlight. Montreux Jazz Café, il y a un Montreux Jazz Café. Montreux Jazz Loft, il y a un Montreux Jazz Loft au festival. Et pourquoi pas un jour aussi avoir la scène des festivals internationaux où vous avez Miami, China, Tokyo, etc., qui amènent des programmations sur cette scène, pourquoi pas. Et ça, c'était vraiment aussi un objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire qu'on fait plein de choses le reste de l'année. Mais toutes ces choses-là sont faites créé pour sublimer le festival à Montreux. On est dans un contexte particulier, on est dans un music business qui évolue, on est dans une course au cachet, on est dans le course au gigantisme. Montreux a ses spécificités de petitesse, d'intimité, d'internationalisation, et on va toujours accentuer ça plus pour que l'expérience client et l'expérience artiste soient la meilleure possible les années futures.
Deux semaines de concerts de légende, des concerts gratuits également à venir un petit peu plus tard, ça aussi il faut le rappeler, hein. Il y a un vrai, tout simplement cette possibilité de se balader sur les quais de Montreux, d'avoir des beaux concerts et de passer une belle soirée, quoi.
70% de la programmation de Montreux est gratuite. Ça présente, au total, on a plus de 500 concerts proposés. Sur les 500, il y en a 64 payants, tout le reste est gratuit. Et donc, ça fait partie aussi de qui nous sommes, de ce festival urbain qui propose et qui amène et qui rend la musique accessible. On reste une fondation qui est là pour mettre en avant la culture et aussi pour permettre à tout un chacun de déguster la musique gratuitement.
Rendez-vous cet été. On va déguster. Mathieu Jaton, merci.
Merci beaucoup.
Avec Benjamin Smadja sur Radio Lac.
La journée finit bien.
La journée finit bien.